Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Chers auditeurs de France Inter, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlerons le langage des carillons. Et celui que vous entendez derrière moi est l'un des plus célèbres, puisqu'il s'agit du carillon de l'église Notre-Dame de Lorette à Prague, un carillon du XVIIe siècle à marteau et à clavier, conçu par l'horloger Neumann et qui comprend pas moins de 27 cloches. Alors je suis sûr qu'il y a au moins une mélodie de carillon que vous connaissez par cœur, c'est celle du palais de Westminster à Londres. En anglais, on la nomme Westminster Quarters, et comme son nom l'indique, elle sonne tous les quarts d'heure. Quatre cloches seulement, sol dièse, fa dièse, mi, si, pour quatre mélodies différentes dont le nombre de notes permet de savoir exactement où on en est. Quatre notes descendantes pour le premier quart d'heure. Huit notes pour la demi, ces huit notes formant une toute nouvelle mélodie. Pour le troisième quart d'heure, 12 notes, dont les quatre dernières reprennent d'ailleurs la mélodie du premier quart d'heure. Vous avez suivi ? Je l'espère, parce qu'il nous reste maintenant à écouter la mélodie la plus longue, celle qu'on entend à l'heure pile, et qui fait 16 notes, dont les différentes permutations reprennent la plupart des formules précédemment utilisées. Et ces 16 notes sont toujours suivies de Big Ben, la grande cloche de 13 tonnes et demie, dont le nombre de coups donne l'heure. Un peu en retard, la Big Ben. Il est plus de 17h05. Il faudra que j'en touche un mot à Elisabeth. Thank you. C'était Maurice Duruflé en personne, vous savez, l'auteur du célèbre Requiem, qui en 1962 faisait sonner le grand orgue de la cathédrale de Soissons, une archive émouvante puisqu'en janvier 2017, une puissante tempête a éventré la grande rosace, dont les débris en tombant ont alors gravement endommagé l'instrument. Quant à la musique que vous avez entendue, il s'agissait d'une pièce composée par Louis Vierne en 1927, intitulée tout simplement « Carillon de Westminster », ce qui semble naturel puisqu'elle nous fait entendre quatre fois de suite l'intégralité des quarts de Westminster, certes dans des présentations instrumentales différentes. Et certains d'entre vous auront peut-être remarqué que le deuxième quart, celui de la demi-heure, n'était pas tout à fait le même que celui de Westminster. C'est qu'avant de composer cette œuvre, Louis Vierne, qui était aveugle, a demandé au facteur d'orgue anglais Henry Willis de lui fredonner les quatre quarts de Westminster. Soit Willis s'est trompé en sifflotant, soit Vierne a mal entendu, le mystère reste entier. Mais si l'orgue de Vierne varie avec bonheur le plus célèbre des thèmes de Carillon, il n'en imite pas pour autant les sonorités. C'est pourquoi je vous propose maintenant de passer au piano pour entendre une composition singulière, le Carillon nocturne du grand violoniste et compositeur roumain Georges Enescu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Georges Enescu, mais j'ai pu constater à chaque fois que je faisais des concerts en Roumanie qu'il était là-bas une véritable icône, dont le portrait figure d'ailleurs sur l'un des billets de banque du pays, celui de 5 lei. Voici donc cet étonnant Carillon nocturne pour piano, une pièce écrite pendant la Première Guerre mondiale, et pour moi l'un des carillons les plus réussis du répertoire pianistique. C'est grâce à l'utilisation de nuances subtilement différenciées et à des mélanges acidulés de consonances et de dissonances qu'Enescu fait doucement scintiller l'aigu du piano, un effet de lointain poétique presque irréel. Nous écoutions le piano de Mara Dobrescu, teinté comme les cloches des monastères du nord de la Roumanie, son pays d'origine, pour cet étrange et fascinant carillon nocturne de Georges Enesco. Presque la même année, le compositeur finlandais Jean Sibelius imagine lui aussi un carillon pianistique, mais nettement plus romantique, dans la descendance de certaines pages de Liszt et de Chopin. Ce carillon relativement bref présente en effet la particularité d'associer le calme d'une large mélodie se déployant dans le médium aigu à un accompagnement en arpèges plus mouvementé et tourbillonnant. Carillon, un extrait des pièces opus 76 pour piano de Jean Sibelius, sous les doigts agiles du pianiste finlandais Olli Mustonen. Après l'orgue et le piano, place aux instruments avant. Nous allons en effet entendre dans quelques instants un carillon de Francis Poulenc, instrumenté pour deux hautbois, deux bassons, deux trompettes et trois trombones, rehaussé d'une caisse claire et d'un clavecin. Une pièce joyeuse, pimpante, qui constitue le final de la suite française d'après Claude Gervaise. Cette suite française était à l'origine une musique de scène, écrite en 1935 pour accompagner la Reine Margot, une pièce de théâtre d'Édouard Bourdet. Poulenc s'inspire ici de danse de la Renaissance, d'un compositeur qu'il affectionne tout particulièrement, Claude Gervaise. Une mélodie franche et répétitive qui donne son caractère carillonnant à la pièce, une véritable rengaine. Georges Prêtre dirigeait les musiciens de l'Orchestre de Paris dans cet extrait de la suite française d'après Claude Gervaise, intitulé comme il se doit aujourd'hui, Carillon. Passons maintenant à l'époque baroque avec le compositeur Marin Marais. Vous savez, celui du célèbre film « Tous les matins du monde » d'Alain Corneau. Donc Marin Marais, après avoir fait partie de l'orchestre de Lully, devient assez rapidement une véritable star de la viole de gambe. Parmi les nombreuses pièces qu'il a écrites pour son instrument, ce savoureux carillon, par lequel il semble vouloir démontrer que la viole de gambe peut tout imiter, même les cloches.
Thank you.
Alors jusqu'ici, les mélodies de nos carillons constituaient le thème principal, celui qui domine et qu'on mémorise. Voici maintenant une nouvelle imitation d'un motif de carillon, motif très simple au demeurant, qui fait tournoyer seulement trois notes en mi majeur. Pam, 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 pam. Car dans le carillon de Bizet, ces trois notes joyeuses et obsédantes sont jouées en boucle et quasiment sans interruption par les corps dans le médium, tandis qu'au premier plan, les violons et les flûtes déploient leur mélodie. Seule la partie centrale, sicilienne nostalgique d'un calme étrange, forme une parenthèse de douceur avant le retour des corps et de leur obsessionnel carillon. L'obsession est d'ailleurs le thème central de la pièce d'Alphonse Daudet pour laquelle Bizet écrit la musique de scène dont est tiré ce carillon. La fameuse petite arlésienne, tout en velours et en dentelle, à laquelle Frédéric, ce beau paysan de 20 ans, ne cesse de penser et dont il dit « je mourrai si on ne me la donne pas ». Et comme les corps de ce carillon, il ne se la sortira pas de la tête jusqu'à son suicide au petit matin suivant la fête du village. Vous ne pensiez pas que les corps pouvaient carillonner ? Eh bien, vous en avez maintenant eu la preuve grâce à cet extrait de l'Arlésienne de Georges Bizet, joué ici par le London Symphony Orchestra, placé sous la direction de Claudio Abbado. Et maintenant, un morceau qui est pour moi une véritable madeleine musicale, le Carillon de Cythère de Couperin, et pas dans n'importe quelle version, dans celle du grand pianiste Wilhelm Kempff. Une pièce douce, tendre, délicate, dont les quatre notes forment comme un carrousel enchanté, dont les sonorités graciles nous emmènent loin, très loin, là où nul ne peut plus nous atteindre. Et je sens, chers auditeurs de La Preuve par Z, que vous risquez de me rappeler à l'ordre en exigeant les sonorités d'origine de ce si beau carillon de citer de François Couperin que j'ai eu la faiblesse de vous faire entendre au piano, mon instrument de prédilection. En voici donc maintenant la version originale pour clavecin. Le toucher perlé, détaillé, de la claveciniste tchèque Susanna Ruzičková dans le célèbre carillon de citer de François Couperin. Et puisque nous en sommes à comparer, voici une nouvelle version de cette musique dont il est décidément impossible de se lasser, cette fois jouée par un véritable carillon, celui des 62 cloches du Beffroi de Douai, actionné par Jacques Lannoy, 34e maître carillonneur de la ville. Alors, chers auditeurs, je vous suppose en plein débat intérieur, vous demandant si vous préférez cette merveilleuse pièce de Couperin au piano, au clavecin ou au carillon. Et je ne vais pas vous faciliter la tâche, puisqu'en voici une quatrième version. Notre carillon de citer a en effet été orchestré 200 ans après Couperin par Richard Strauss, pour une musique de ballet écrite en 1923 à partir de pièces pour clavier du compositeur français. Notre carillon devient ici une extraordinaire petite boîte à musique aux sonorités douces, magiques, aériennes. Ça commence par un quatuor d'instruments tintinabulants et je suis content parce qu'il y a tous mes chouchous, le célestat, le clavecin, la harpe et le jeu de timbre. C'est alors que Richard Strauss a l'idée de faire entendre une autre pièce pour clavecin de Couperin, l'évaporer, cette fois-ci confiée à un quintet à cordes. Ce n'est qu'à la reprise du carillon de citer que le compositeur joindra les deux groupes d'instruments, y ajoutant un troisième groupe, cette fois d'instruments avant, pour une coda dont le style n'a plus rien à voir avec celui du XVIIIe siècle. Thank you. Quand Richard Strauss rencontre François Couperin, un carillon de Cythère avec tout le confort moderne, interprété ici par Charles Dutoit et le Sinfonietta de Montréal. Alors entre le piano, le clavecin, le carillon ou l'orchestre de chambre, je compte bien sur vous pour me dire, chers auditeurs de France Inter, quelle version vous aurez préférée. En attendant, j'aimerais vous parler de la Samaritaine. Bon, je ne parle pas du grand magasin situé au niveau du Pont-Neuf à Paris, mais de la pompe à eau qui lui a donné son nom, une pompe à eau construite sous le règne d'Henri IV et qui permettait d'alimenter les bassins, jets et fontaines du jardin des Tuileries. N'imaginez pas qu'il s'agissait d'une banale construction abritant la roue et le mécanisme de la pompe à eau. Non, non, il s'agissait d'un très beau bâtiment royal sur lequel se dressaient les statues en bronze doré de Jésus-Christ et de la célèbre Samaritaine de l'Évangile de Saint-Jean devant le puits de Jacob. Et cet ensemble comprenait également un carillon, bien sûr, ainsi qu'une horloge et un jacquemart, vous savez, ces automates qui frappent les cloches avec un marteau, le tout sonnant toutes les heures, ainsi qu'au passage du roi. Mais début 18e, au grand dam des Parisiens, le carillon ne fonctionne plus. Et c'est sans doute la raison pour laquelle un musicien de l'époque, le sieur Déon, a composé cette amusante chanson en hommage au défunt carillon de la Samaritaine.
Ding dong, dong, ding, ding, dong, dong, ding, ding, dong, dong.
Ding,
défunt le carillon de la Samaritaine.
Ding, défunt le carillon.
Ding 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 dong dong, ding 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 dong dong, ding 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 dong dong, ding 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 dong dong.
À qui le fichier carillon? À qui le fichier carillon? Ding dong ding dong, ding 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 dong, ding 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 dong dong, ding 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 dong dong. À qui le fichier carillon? Quand je me rends dans la baleine, ding ding dong ding dong ding dong ding 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 dong, et que dans un saignée d'autres les allumons, ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Si j'avais grelot tout sonnette, pendus à nos margoulettes, ding 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 dong. Qu'il ferait beau vous voir comme lui les auvergnes, ding 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 ding. Pour le curé la belle Évergne, ding 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 ding. À la sonnette de Charlie Carillon, ding 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 ding.
Les boîtes à musique peuvent-elles également être considérées comme des carillons? Parfois oui, comme semble le penser en 1920 le compositeur italien Alfredo Casella, qui a l'idée de superposer dans l'aigu une main droite sur les touches blanches et une main gauche sur les touches noires. Une boîte à musique hypnotique, aux sonorités cristallines, les deux pédales du piano bien enfoncées jusqu'au bout, et cette fin énigmatique où, comme un ressort épuisé, la merveilleuse et délicate mécanique s'arrête.
Thank you.
la bitonalité délicieusement acidulée du carillon d'Alfredo Casella, un extrait de ses pièces pour enfants de 1920 interprété par le pianiste italien Luca Ballerini. Et si le carillon, malgré son innocence, ou peut-être grâce à elle, annonçait en fait une mort prochaine? N'est-ce pas un peu ce que nous dit la fameuse comptine? Dès le point du jour, à la cloche il s'accroche, et le soir encore carillonne plus fort, quand sonnera-t-on la mort du sonneur?
Maudit sois-tu, carillonneur, que tu créas pour mon malheur. Maudit sois-tu, carillonneur, que le ciel créa pour rien malheur. Maudit sois-tu, carillonneur, que le ciel créa pour rien malheur. Maudit sois-tu,
les voix d'enfants s'enchaînent au fameux carillon du célèbre western de Sergio Leone et pour quelques dollars de plus. C'est le duel final et l'Indien lance au colonel Mortimer « Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet et essaie de me tuer. Essaie. » La douceur des cordes, le carillon qui se fait berceuse avant que la fragile mécanique de la vie ne s'arrête. Merci à Ennio Morricone, qui signait en 1965 pour Sergio Leone l'une de ses musiques de films les plus célèbres. Alors quand je vous dis depuis le début de notre émission que les carillons ont marqué de très nombreux compositeurs, eh bien je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai moi-même été inspiré par leur merveilleux tintinnabulement. C'est ainsi que dans mon album « Improvisation », un carillon au départ tranquille et lumineux se voit petit à petit menacé par d'étranges accords dans le grave du piano, comme un dialogue entre ombre et lumière, entre ciel et terre.
Thank you.
Nous écoutions mon propre carillon pour piano, un carillon qui vous a peut-être évoqué quelque chose si vous êtes parisien, puisqu'il a été utilisé pendant presque 10 ans comme indicatif sonore par le Théâtre du Châtelet pour annoncer le début des spectacles. Mais il est temps maintenant de conclure notre preuve par Z carillonnante, et cette fois je vous propose de faire swinguer le fameux carillon de Westminster que nous écoutions en début d'émission. Impossible, me direz-vous ? Eh bien la preuve avec Shirley Bassey.
Ask me now that we're cozy and clinging. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. From the moment we kissed tonight, that's the way I've just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. Or if I were a banner, I'd wave. Ask me how do I feel, little me, with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. And if I were a watch, I'd start popping my spring. Or if I were a bell, I'd go ding. From this chemistry lesson I'm learning. Well, sir, all I can say is if I were a bridge, I'd be burning. Yes, I knew my morale would crack from the wonderful way that you looked. Boy, if I were a duck, I'd quack. Or if I were a goose, I'd be cooked. Ask me how do I feel, ask me now that we're fondly caressing. How if I were a salad, I'd know I'd be splashing my dressing. Or if I were a season, I'd surely be spraying. Or if I were a bell, I'd go ding.
Si j'étais une cloche, je ferais ding, dang, ding, dang, ding. C'était If I Were a Bell, une chanson de la célèbre comédie musicale Guys and Dolls de Frank Lesser, ici interprétée par Shirley Bassey dans un enregistrement de 1961. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconneau. Chef opérateur du son, Benjamin Vignal. À la semaine prochaine.